Et nous en sommes à la face B de la première cassette. Et nous étions à parler des divers types de peurs. Et j'en mentionne un quatrième exemple. La peur de devoir, par voie de conséquence, non seulement accueillir l'amour et la miséricorde divine, mais d'avoir à la retransmettre et la partager avec les autres. Aussi triste que soit ce constat en Église, du moins en certains endroits, comme on a cessé de nous parler comme il se doit du grand don du salut, avec ses exigences et ses bienfaits, beaucoup, à la vérité, n'y sont pas préparés, d'où tant de peurs plus ou moins conscientes. Or, comme on a plus ou moins conscience de ces peurs, ou si on en a conscience, on n'ose pas se les avouer, encore moins les déclarer, on a tendance à transférer sur d'autres motifs ces hésitations à croire et à dire un oui total et définitif au retour imminent de Jésus d'ici l'an 2000. Et je pourrais préciser que certains hommes et femmes d'Église réagissent, ma foi, comme si la venue de Jésus allait leur faire concurrence, déranger leurs plans, compromettre leur avenir en quelque sorte. Et finalement, bien entendu, il y a la peur de tous ceux et celles que l'avènement prochain sur terre de la vérité vraie, de l'amour vrai, de la justice vraie, de la liberté vraie pour tous, de la miséricorde divine, donc les vrais de vrais importés du ciel, incommode de quelque manière parce que leur vie et leur comportement actuel laissent à désirer sur l'un ou l'autre de ces points, et ils ne peuvent s'empêcher d'éprouver un certain malaise, et même un malaise certain, face à la venue imminente de Jésus. Et comme le schéma d'exposé nous le précise, parlons maintenant des réactions épiscopales. Les réactions épiscopales, jusqu'à présent, sont très révélatrices du type d'évêque ou d'archevêque qu'ils sont. Ainsi, les chefs d'Église vraiment du style 2 nouveau, qui n'ont donc pas de vie à la course et sont généralement libres face à leur entourage, ont pu résister aisément aux fortes pressions des non, qui sont toujours les premiers, comme on le sait, à s'exprimer auprès des autorités ecclésiastiques et à créer l'impression d'être majoritaires par rapport au oui, du moins au point de départ, et ont pu également éviter de s'accrocher les pieds dans les fleurs du tapis, comme par exemple la question de la date. Un prélat de cette trempe, du style 2 nouveau, me confiait qu'il n'avait aucune sérieuse raison d'intervenir, de prendre position ou de faire des mises au point, puisque tout cela est déjà dans l'Écriture, qu'il appartient à chacun de discerner lui-même avec l'Esprit du Seigneur, et qu'il est ridicule, néfaste même, de lancer une polémique concernant le retour de Jésus quand on l'attend d'une minute à l'autre depuis 20 siècles. On est absolument sûr que d'une chose, précise-t-il en souriant, c'est qu'il n'est pas encore venu. Par ailleurs, il semble que bien des prélats du style 1 actuel aient subi l'assaut de leur entourage, en majorité, peu ou pas d'accord, leur faisant un quasi-devoir de conscience de se prononcer au plus tôt, de rétablir les choses fermement et rapidement. Et les pressions des non dans tous les domaines d'Église, comme dans le reste du monde, si je me rappelle mon bon vieux temps des 25 années de service actif au milieu des évêques, les pressions des non sont généralement fortes, tenaces, ne lâchent pas, souvent orchestrées et facilement culpabilisantes. Elles font sentir à l'autorité qu'il serait grave de ne pas intervenir. Et il est alors bien facile pour un chef d'Église, surtout s'il est déjà prisonnier ou dépendant quelque peu de son entourage, de succomber à la tentation. Certains d'entre eux ont déjà suffisamment dit, écrit ou fait pour que les fidèles en général, aussi bien les non que les oui, aient eu l'occasion de prendre note de leur fin de non-recevoir, de leur scepticisme ou de leur insensibilité spirituelle à ce qui se passe et se vit présentement dans les âmes. Le si peu qu'ils ont dit, écrit ou fait a déjà suffi à leur faire perdre auprès d'une portion notable de leurs ouailles, non pas leur statut, mais leur stature de chef spirituel. Ils ont joué leur crédibilité. Les vrais oui ne peuvent plus compter sur eux. Ils vont affirmer de plus en plus leurs divergences, dissidences et distances à leur égard, du moins au fond de leur cœur, puis dans les faits. Et les non, leurs complices d'un court matin, seront les suivants à leur tourner le dos et à les abandonner dès que les confirmations vont se mettre à pleuvoir. Et comme je le disais sous forme de mise en garde fraternelle, au début de la proclamation prophétique du grand Big Bang spirituel, et permettez-moi de redire mot à mot encore une fois cet avertissement, et je cite, « C'est pourquoi je me permets, respectueusement et tout fraternellement, puisque je cours moi-même le risque de toute ma crédibilité, de souligner à quiconque, individu ou groupe, qui voudrait nier cette proclamation ou certaines de ses prophéties, qu'il va ou qu'ils vont courir le même grand risque que moi. Si ces prophéties se confirment, et cela se fera au cours des prochaines années, ils ou elles vont y perdre, eux et elles aussi, pour de bon, toute leur crédibilité, et devront inévitablement céder la place. Il leur importe donc de ne pas procéder à la légère, de longuement, eux et elles aussi, écouter l'Esprit du Seigneur, de bien prier, jeûner et discerner spirituellement et longuement avant d'agir et de se prononcer. À bon entendeur, tous mes saluts. Frères et sœurs sceptiques, face à cette proclamation, je vous en prie, ne faites pas l'erreur de rejeter tout cela par simple discernement humain, au pifomètre ou simple flair, à vue de nez, au seul son du tympan. Vous pourriez le regretter rapidement, amèrement et longuement, avec dommage et intérêt, croyez-moi. Fin de la citation. La fin ou la chute des masques, tant intérieurs, c'est-à-dire en soi, ou extérieurs face aux autres, ne cause pas que des déceptions, à savoir la découverte soudaine d'évêques en deçà de nos attentes. La fin de la mascarade cause aussi de vives joies, de réconfortantes découvertes, celle de chefs spirituels diocésains de style 2 nouveau, déjà bel et bien convaincus et convaincants. Ces évêques, jusqu'à maintenant, dans l'ensemble, souhaitaient ce renouveau spirituel en profondeur de l'Église, mais n'osaient pas le déclarer tout haut, de peur de n'être pas compris, approuvé ou apprécié de certains de leurs collègues. Et, comme la Vierge Marie, ils gardaient cela au fond de leur cœur comme une grande espérance. En outre, parmi eux, s'ajoute un bon nombre d'autres évêques qui, tout en étant qualifiés quant au style de nouveau, n'avaient même pas osé croire encore et se l'avouer à eux-mêmes, y donner libre cours, tant ils croyaient que tout cela était un pur rêve en couleur, une utopie, et ne voulaient pas risquer, en y croyant pour vrai, être de plus en plus déçus par la réalité. Mes frères et mes sœurs, réjouissons-nous. Ils sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le pense. Ces évêques du style 2 nouveau, en train de se démasquer, de nous apparaître, parce qu'ils ont enfin l'audace de répondre à la grâce qui les sollicite et le courage de se révéler de plus en plus, à eux-mêmes d'abord, puis à leurs frères dans l'épiscopat. Un peu malgré eux, souvent même inconsciemment, plusieurs s'étaient laissés prendre en otage par la collégialité épiscopale mal interprétée, pris en tutelle par certains confrères grands ténors au sein de l'Assemblée des évêques, au point d'être du style 1 en cours par la force des circonstances et pour faire ou être comme les autres. Soit dit en passant, si vous voulez avoir un bel exemple d'une prise de position épiscopale claire et nette face au retour imminent de Jésus, je vous conseille de vous procurer une brochure de Mgr André Mucien Léonard, évêque depuis 3 ans du diocèse de Namur en Belgique. Brochure consacrée au thème de la prière et intitulée « Demandez et vous recevrez ». 64 pages, brochure numéro 2 de la série « Bonne nouvelle ». Mgr Léonard non seulement n'hésite pas à prendre position sur le sujet, mais il le fait avec une clarté, une audace et une sagesse imprégnées de foi et d'espérance chrétienne évidente et interpellante. Sa prise de position est exceptionnelle, vraiment hors de l'ordinaire. Et j'aurais le goût en boutade d'ajouter, hors même de bien des ordinaires. Et passons au troisième et dernier point de ce chapitre, et disons un mot des réactions, et j'invente l'expression, apostrophiques. Dans la vie de l'Église, vous le savez, il y a ce qu'on appelle les gestes et les lettres apostoliques. Mais, je vous l'apprends, il y a également les gestes et les lettres apostrophiques. Il n'y a pas lieu de s'en surprendre de toutes ces réactions négatives, impulsives ou incisives, mordantes. Tout cela nous a d'ailleurs été déjà prophétisé il y a, devinez, 1900 ans, par l'apôtre Jude, qui écrivait vers la fin du 1er siècle, et je cite, lettre de Jude, chapitre 1er. « À la fin des temps, il y aura des railleurs qui seront menés par leur passion impie, c'est-à-dire l'orgueil, la jalousie, l'autoritarisme. » Je continue la citation. Ce sont bien eux. Ils introduisent des divisions. Ils ont des pensées terrestres. Ils ne possèdent pas l'esprit. Mais vous, mes amis, construisez-vous sur la base de votre foi très sainte. Priez dans l'Esprit Saint. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. C'est-à-dire, ne manquez pas la charité. Placez votre attente dans la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Et je continue. Ceux qui hésitent, donc les oui et les non momentanés, prenez-les en pitié. Sauvez-les en les arrachant du feu. Et la meilleure manière, c'est de témoigner son oui et prier. Toujours dans la citation de Jude, « Pour les autres, prenez-les en pitié, mais avec crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par leur chair. Fin de la citation de Saint Jude. Ça veut dire en bon français, évitez-les. Affichez votre divergence et votre dissidence, et bref, prenez vos distances. Donc, peu importe la tunique, sa forme ou sa couleur, si ces personnes semblent, tentent ou veulent vous détourner de votre route, celle que l'Esprit du Seigneur vous trace au fond du cœur, recourez au 10D. L'enjeu est trop grand. Pardonnez et priez pour eux, mais ne vous fiez pas à leur boussole pour le moment. Personnellement, je peux bien vous en faire l'aveu. Quand je vois réagir certains frères et sœurs en Église, notamment des hommes et femmes en poste d'autorité, avec si peu de maîtrise, avec autant d'agressivité ou de méchanceté parfois, après tout, non pas contre un agent notoire du mal, un instrument possédé par Satan, à ce que je sache, mais contre un frère qui demande inlassablement une Église plus pure, plus sainte, plus vivante de son souffle à lui, le Seigneur, quand je vois et que j'entends de tels comportements ou propos, amers ou même rageurs, je vous en fais la confidence, j'ai mal non pas à ma peau ou à mes os, mais spirituellement parlant, aux leurs. J'ai un chagrin spirituel profond de penser d'avance pour employer une autre onomatopée que celle du Big Bang. Je pense au Bidding Badang psychologique et spirituel qui les attend bientôt, quand leur frasque et leur grand écart de conduite en tant que chrétien sera passé. Veut pas, le jugement particulier anticipé va éclater en eux un bon jour, et qu'ils vont tout à coup repenser, revoir, réentendre tout ce qu'ils ont fait ou dit de trop ou de faux. Quelle sera alors leur humiliation, leur choc et leur désarroi? Quel drame pour eux d'expérimenter en fin de vie, sans échappatoire, quelle côte à remonter! Surtout quand tout ce que Jésus a clairement dit dans son évangile leur sera rappelé en lettres majuscules et souligné, notamment que rien ne sera gardé secret, qu'on aura à rendre compte de chaque parole, de chaque jugement, qu'on sera jugé avec la même mesure que celle qu'on aura utilisée pour les autres, que ce qui sort d'impur de la bouche ou de la plume vient de ce qu'il y a dans le cœur, qu'un bon arbre ne donne pas de mauvais fruits, donc de diffamation, de jugement, de critique malsaine, etc. J'ai également mal à leur cœur, par anticipation. Quand je pense aux instigateurs et aux victimes, de là où des mères debout lancées ici et là dans tous les coins de l'Église, comme ils et vont souffrir, moralement et spirituellement, non seulement ceux qui ont été à l'origine des graves diffamations et mensonges de ces tristes marées noires, mais tout autant, cette légion d'hommes et de femmes d'Église, évêques, religieux, religieuses, prêtres, laïcs, qui vont réaliser tout à coup, un bonjour, à quel point ils se sont fait avoir par d'autres et vont constater douloureusement qu'ils ont manqué personnellement de discernement et de jugement en étant aussi incrédules. Quelle humiliation ce sera! Leur ego va subir tout un choc. Cristallin a une explication pour le moins originale et amusante à la fois, pour expliquer certains de ces emportements, souvent violents, méchants même, disproportionnés et maladroits, qu'on tue, qu'on encore, ou corrompt certaines personnes, jugées jusqu'ici comme honorables hommes et femmes d'Église, intelligents et dévoués, et qui tout à coup éclatent, fulminent, se livrent à des dires, des écrits ou des gestes aussi regrettables et répréhensibles, surtout venant de personnes comme eux et comme elles. Cristallin, se référant à la pièce musicale bien connue intitulée « Le vol du bourdon » du compositeur russe Rimsky-Korsakov à la fin du siècle dernier, explique que bien des hommes et femmes d'Église, de plus en plus ennuyés, agacés même de se faire dire à gauche et à droite, à tout moment, ici et là, parfois par de leurs propres disciples, « Avez-vous écouté telle cassette de Mgr Mathieu? Qu'en pensez-vous? Il faut absolument que vous écoutiez ceci, cela. Ça vous confirmerait, ça vous éclairerait. Il ne partage pas votre idée. » comme un bourdon qui vole tout autour, ils se sentent agacés, énervés et irrités. Ils deviennent alors ce monsieur ou cette madame d'église, menacés sans se l'avouer, décide alors de régler le cas une fois pour toutes et va vite écouter la cassette qui a déjà un peu trop de publicité. L'écoute à la course, souvent partiellement, entre deux tâches pressantes, et surtout l'écoute dans un fort mauvais esprit, celui d'y trouver des failles et de prendre le tout en défaut. Et c'est là que tout à coup ils explosent, passent à côté du sujet, tant celui qui est traité que celui qui le traite, et dans leurs déclarations ou leurs lettres, se trouvent à démontrer leur propre faiblesse personnelle. La poutre dans leur œil à eux-mêmes et leur manque complet de maîtrise ou de compétence en ce domaine. Leur pétard leur échappe et il éclate en leur propre visage. Et Cristallin résume en souriant, « Au début, ça commence par le vol du bourdon, puis peu à peu, ça devient le vol du bouillon, et finalement, ça devient le vol d'un bougon. Ça bourdonne, ça bouillonne et ça bougonne. » Et voilà, mes chers amis, le temps est venu, ou plutôt, avant de terminer ce chapitre, pour le terminer sur une note d'espérance, je tiens à vous dire, mes frères et sœurs, demeurons calmes et sereins. Le plus sûr est en marche, le plus dur achève, et le plus pur en sortira. Au cours des prochains mois et quelques années, tout au plus, tout le pus de tous les abcès et de toutes les plaies va sortir abondamment. Il nous faut vivre cette phase purulente. Elle est nécessaire, inévitable, même bienfaisante, pour que l'opération divine de purification, de libération, de guérison et de résurrection, des âmes, des cœurs, des esprits et des corps, soit un grand succès. Comme je l'ai déjà exprimé et expliqué, cette résurgence du mal vient à la fois des forces du mal qui sont déchaînées, certes, mais également des forces de bien qu'opère et déclenche l'Esprit Saint et qui font monter à la surface tout le mal enfoui au fond des êtres. En effet, Sous l'influence de la grâce, chacun se sent poussé à cracher le venin déjà en lui, à se vider le cœur et l'esprit de tout ce qui l'empoise, l'empoisonne plutôt, depuis parfois fort longtemps et même à son insu. Et tout cela va souvent jaillir, sortir malgré eux, parfois même à leur insu. On va donc voir et entendre comme jamais auparavant, et non seulement dans le monde, mais également en plein cœur de l'Église, des absurdités, des conneries. On va voir des comportements aberrants. N'ayons crainte. Tout cela doit et va sortir. Il faut que tous les masques tombent, que les bâillons, pour ne pas dire certaines muselières, disparaissent. Tout cela fait partie du scénario prophétisé de la décadence-renaissance simultanée et de la tribulation-jubilation à la fois. Il nous faut aller jusqu'à entendre et voir ces bêtises se dire et se faire pour que tous ensemble, nous puissions nous exclamer avec foi et ferveur, « de vrai Maranatha, reviens Seigneur Jésus, reviens, ton peuple en a marre, n'en peut plus, viens Seigneur, nous réenseigner ce qu'on n'a pas compris ou vécu. Viens, viens, viens au plus vite. On désire ton royaume à toi seul, pour vrai et pour de bon. » Et passons, si vous le voulez bien, maintenant au chapitre 2, qui traite, comme le schéma l'indique, des oui. Voyons d'abord l'origine des oui, les niveaux de oui, et l'importance de laisser mûrir son oui. Disons d'abord un mot de l'origine des vrais oui. Les vrais de vrais oui, fervents et profonds, ne peuvent venir que par une grâce du Seigneur. Réjouissons-nous et rendons-lui toute louange. De deux choses l'une. Ou l'Esprit de Dieu nous avait déjà mis tout cela au cœur directement, et l'écoute des cassettes ou la lecture de messages identiques sont alors venus simplement confirmer le tout, donner à notre premier oui dans la foi au fond de nous-mêmes un appui, une certitude plus grande. Ou, à l'inverse, nous n'en savions absolument rien et les cassettes et les messages sont venus nous alerter et nous réveiller. Nous avons ensuite prié le Seigneur de nous aider à discerner le tout, et alors l'Esprit du Seigneur nous a mis au cœur la certitude que tout cela vient bel et bien de lui, et nous a donné à ce propos une joie et une paix intérieure profonde. Chose certaine, personne n'a pu, ne peut ou ne pourra dire oui sans avoir reçu avant, pendant ou après, une grâce divine spéciale. Car le oui en ces matières n'est pas naturel, ne peut pas être le fruit de la raison ou des connaissances humaines acquises, si grandes soient-elles. Un tel oui est surnaturel et exige deux choses, l'intervention de la grâce et l'aptitude chez la personne en question à capter et à laisser agir ses grâces. Et quant à l'écoute des âmes, on se rend de plus en plus compte, de nos jours, que la grande majorité des oui fervents et déclarés spontanément viennent, à l'heure actuelle, non pas tant de nos diplômés et de nos titrés en Église, mais des fidèles plutôt simples et petits devant Dieu. Et si on retient que la grâce est pourtant offerte à tout le monde, surtout en ces domaines, on ne peut s'empêcher de constater que la grâce et l'Esprit Saint du Seigneur semblent opérer présentement beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus efficacement chez les humbles et petits que chez les savants et les sages. C'est quand même surprenant. Mais voyons-y un autre signe des temps. Jésus nous l'avait prophétisé dès sa première venue, et la situation n'a guère changé à la veille de sa seconde venue. Matthieu 11, 25, « Je te loue, Père, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits. » Matthieu 13, 11, « Parce qu'à vous, ces vrais disciples, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, tandis qu'à ceux-là, ce n'est pas donné. » Quand je vois tout cela arriver, mes chers amis, cette inversion des situations et des rôles, à savoir qu'à la vérité les plus instruits s'avèrent de facto les plus ignorants de ce qui se passe présentement, et que les soi-disant peu ou pas instruits en sciences religieuses s'avèrent nos vrais et nouveaux docteurs, non pas de la loi, mais de la foi, je me redis, Maranatha, reviens vite, Seigneur. Reviens vite, Seigneur Jésus. C'est un peu comme si dans le monde de la science humaine en général, les scientifiques qualifiés et chevronnés s'avéraient de plus en plus confus, dépassés, perdus, alors que les gens du peuple non formés se mettaient à tirer au clair, à coups de traits de génie, les grandes énigmes scientifiques de l'heure concernant le nucléaire, les astres, l'énergie, etc. Quand les experts y perdent leur latin et que ceux qui ne connaissent pas le latin se mettent à le bien parler, watch out, comme diraient les Anglais, prenons garde, ça ne va pas très bien. Il y a trois niveaux de oui. Il y a d'abord le oui qui se cueille au passage et en route. On n'a pas de raison, du moins encore, de dire non. C'est donc un oui fragile, un strict minimum, car la semence a pu tomber soit au bord du chemin, soit dans un endroit pierreux, soit dans les épines, qui sait. Tout peut encore se produire, les oiseaux peuvent venir manger ce oui. Non enraciné, il peut se dessécher. Donc, un oui sincère, certes, mais beaucoup trop en surface. Qui a donc sans cesse besoin d'être conforté, rassuré, redit, réanimé et redonné. Il y a ensuite le oui qu'on accueille volontiers, auquel on ouvre vraiment la porte de son esprit, de son cœur. Car ces prophéties répondent à des intuitions, des inspirations, des aspirations ou convictions déjà logées au fond de notre être, parfois depuis fort longtemps, sous diverses formes. Par exemple, on est convaincu qu'il faut que Dieu s'en mêle davantage. On sait que l'Église et on sent que l'Église et le monde ne sont pas ce qu'ils devraient être. Mais, comme notre foi et discernement personnel manquent de vigueur, il nous faut reposer sur les autres. Et si ceux-ci se mettent à douter, à rejeter, ne voulant pas nous retrouver isolés et orphelins, ces attitudes extérieures peuvent aisément venir arracher, déraciner même notre oui temporaire. Et je pense à tous ces gens qui ont besoin, pour dire oui, de savoir ce que les évêques pensent, les prêtres pensent, un tel pense, le père un tel pense, etc. Troisième possibilité, le oui qui se recueille au fond de nous. Et ça, c'est le vrai de vrai oui. Pourquoi? Parce qu'il est libre, en connaissance de cause, et sous la mouvance du Seigneur. C'est le oui solide, définitif, bien en place. Il s'anime et se ressource de plus en plus lui-même, sans besoin de preuves et de soutien. C'est le oui de foi, le croire sans voir. Et les bienfaits nombreux et immédiats surgissent dès le oui donné. Les grâces d'accompagnement abondent. Les confirmations intérieures et extérieures se multiplient. On bénéficie déjà par anticipation des lumières et des forces comme si ce qui est prophétisé était déjà arrivé. Le monde et l'Église, malgré leurs apparences encore négatives, ne sont déjà plus les mêmes en notre cœur et esprit, car la jubilation l'emporte sur la tribulation. Si cela peut vous consoler ou vous conforter, je peux vous assurer qu'il y a présentement, par pure gratuité du Seigneur, au moins un oui vrai, solide, vivant, dans absolument tous les milieux de vie ou de travail, à la grandeur de la terre, sur tous les continents. Donc, au strict minimum, un oui profond et cadeau providentiel, pour prendre nos milieux d'Église, dans chaque évêché, chaque épiscopat national, chaque paroisse, chaque groupement spirituel, chaque communauté religieuse locale, le moindrement significative, etc. C'est oui, solide, planté là par le Seigneur, souvent isolé, encore non exprimé parfois par prudence, gêne ou peur, sont les gardiens de la flamme du chrétien inconnu de demain. Leur seule présence est non seulement des plus agréables à Dieu, mais est porteuse de la puissance divine de conversion éventuelle de tous les noms et les oui et non du milieu. Par ces hommes et femmes, souvent très discrets, la place est occupée et sera conquise à l'heure choisie par le feu de l'esprit. Et comme vous le savez, dans certains milieux, les oui surabondent déjà et prolifèrent. Il faut prendre tout le temps requis, et cela varie d'une personne à l'autre, pour dire son oui et le laisser mûrir. L'un des plus importants, sinon le plus important de sa vie. Un oui qui sera mis à l'épreuve par ses frères et sœurs du non et du oui, par le temps et les événements. Mais un oui qui comble de joie et de gloire le Seigneur, parce qu'il exige une foi à l'emporte-pièce et ne repose sur rien ou personne d'autre que lui au fin fond de soi. L'adhésion à une prophétie n'exige jamais un rapide oui, un oui inconsidéré, encore moins un oui précipité et extorqué. Le souci sage de prendre le temps voulu et permis par le Seigneur pour bien discerner aurait évité d'ailleurs à certains leaders spirituels bien connus de s'être fait piéger déjà en échappant un peu malgré eux un non, un presque non ou un oui, tout simplement parce que leur vrai oui n'était pas encore suffisamment mûri. On les a poussés à se déclarer prématurément et ils ont brûlé ainsi leurs cartouches par une première fusillade hors cible. Avant de terminer ce chapitre 2, quelques conseils d'amis aux tenants du oui. Je dis à tous ceux qui ont prononcé le oui dans leur cœur, ne tardez pas à hisser vos couleurs au haut du mât, quoi qu'il en coûte. « Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, dit Jésus, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est aux cieux. » Matthieu 10, 32. Car l'heure est bel et bien arrivée où il faut dire oui ou non. Ce sera de plus en plus difficile et impossible de ne pas se déclarer. Et cacher son jeu, calculer son jeu, ne bénéficie d'aucune grâce divine. Au contraire, nous met à la merci de judoka et des autres. Et la persécution, la mini-persécution qui pourrait s'en suivre ici ou là en avouant son oui, croyez-moi, est vivable, rentable, agréable même, si elle est vécue avec et pour lui. Témoignons-en, cependant, calmement, ouvertement, franchement, sans ostentation, sans pression, sans fanatisme, sans vouloir convertir. En agissant ainsi, sans tambour ni trompette, nous semons l'espérance, nous nous trouvons à donner notre carte d'identité spirituelle, notre carte de visite, nos coordonnées. Et quand nos interlocuteurs, parents, amis, confrères, consœurs seront un jour inquiets, ce qui ne saurait tarder, ils sauront bien et comment nous retracer. Passons, si vous le voulez bien, au chapitre 3, les noms. Les divers types de noms, c'est-à-dire les noms déclarés à mots ouverts. Les noms ont été et vont être, comme toujours et partout, les premiers à fuser et à s'exprimer, vont être majoritaires au point de départ, comme dans tout référendum, du moins apparemment, car c'est la réponse la plus simple à donner, la réaction la plus facile à avoir. Un nom permet toujours d'ajourner, de rejeter pour le moment. Un oui, au contraire, implique un engagement immédiat, une suite à donner, une preuve à confirmer. Et on me fait signe que le temps est écoulé. Nous continuerons sur la deuxième cassette.